Тут работа, кто тут... Ой, аккурат.
Si nous avions pu évaluer rapidement l'impact de la COVID-19 sur la santé des enfants, est-ce que les décideurs auraient fait un choix différent?
Nous devons reconnaître que la discrimination existe ici.
Bonsoir. La guerre en Ukraine est entrée dans son troisième mois. Trois mois de bombardements sans relâche de la part des forces russes, trois mois de résistance féroce de la part des Ukrainiens. Et à présent, il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui avaient fui vers d'autres régions ou d'autres pays qui font le chemin en sens inverse et qui rentrent chez eux. Dans quelques instants, on va s'entretenir avec la journaliste Tetiana Ogarkova qui est de retour chez elle, près de Kiev, avec sa famille. Mais pourtant, la guerre, elle est loin, loin d'être finie. On va faire le point avec Michel sur les derniers développements. Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Noémie.
Donc, les forces russes n'ont pas fait d'avancée majeure dans le Donbass, cette région où on s'attend à une offensive de grande envergure. Et selon des observateurs, c'est ce qui se passe à Mariupol qui serait en partie responsable de ce piétinement?
Oui, parce qu'il y a toujours une bonne résistance. Ces gens qui résistent, malgré les nouvelles frappes aériennes qui ont été lancées en fin de semaine sur le grand complexe métallurgique d'Azovstal. Je le rappelle, je le disais la semaine passée, il y a environ 2000, les estimations, c'est 2000 combattants dans les tunnels, dans les bunkers de ce méga complexe, mais également 1000 civils. Puis là, il y a une vidéo qui a été publiée hier. On y voit des enfants, des familles qui se sont réfugiés là, dans ces tunnels, dans ces bunkers, depuis les premiers jours de bombardement à Mariupol. Ils sont vraiment coincés là. Ça fait des semaines qu'ils sont là. Dans certains cas, il y en a qui sont arrivés avant les soldats, les combattants. Là, il manque de tout. Il manque d'eau, il manque de nourriture. Précision, ces images ont été diffusées par le bataillon d'extrême droite Azov, qui fait partie des forces ukrainiennes dans le complexe, là. Mais ce ne sont pas des images de journalistes. Pendant, les agences de presse ont confirmé, authentifié en fait ces images-là. On y voit des enfants. On a vu rapidement un enfant qui porte une espèce de couche qui a été faite maison. On entend dans la vidéo une femme en larmes qui demande l'arrêt de cette agression, que les enfants pleurent constamment, qu'ils veulent sortir de là, mais ils ne peuvent pas. L'armée russe s'était engagée à ouvrir aujourd'hui un couloir humanitaire pour leur permettre de partir, mais aucun accord n'a été conclu pour instaurer un couloir humanitaire, selon la vice-première ministre ukrainienne. Alors, pas de couloir humanitaire, pas de sécurité, pas d'évacuation. Ailleurs dans le pays, pendant ce temps-là, bien, les Russes ont effectué une série d'attaques. Il y a 5 installations ferroviaires dans le centre, mais également dans l'ouest du pays, qui ont été touchées tôt, y compris une attaque tout près de Lviv. Attaque qui aurait, là, toutes ces attaques-là auraient fait 5 morts, une vingtaine de blessés. La Russie a également détruit une raffinerie de pétrole dans le centre de l'Ukraine, ainsi que des dépôts de carburant. Il y a également eu un incendie majeur qui s'est déclaré tôt lundi dans un dépôt pétrolier dans une ville russe à environ 100 km de la frontière ukrainienne. On ne connaît pas la cause exacte de cet incendie-là. Est-ce que ça vient d'une attaque des Ukrainiens? Bien, c'est ce qui circule, mais bon, il faudrait confirmer. Maintenant, il y a quand même une victoire de l'Ukraine qui est toujours possible, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui étaient tous les deux de passage à Kiev en fin de semaine. Ils ont annoncé la vente par Washington de 165 millions de dollars américains en munitions pour l'Ukraine et plus de 300 millions de dollars américains de financement militaire étranger. Alors, c'est une rencontre qui a été qualifiée d'encourageante, mais surtout efficace, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a aussi d'ailleurs félicité le président américain Joe Biden pour son soutien personnel envers l'Ukraine.
Merci, Michel. On se retrouve plus tard.
À plus tard.
5 200 000 Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre, selon les Nations unies. Mais ils sont nombreux aussi à rentrer à la maison maintenant que la Russie veut concentrer son offensive dans l'est du pays. Je retrouve la journaliste Tetiana Ogarkova à Brovary, en banlieue de Kiev. Bonsoir, Tetiana.
Bonsoir.
Alors, vous êtes de retour chez vous avec votre famille depuis environ une semaine. Brovary, c'est tout près de Kiev. Vous aviez passé les dernières semaines plus à l'ouest, je crois. Qu'est-ce que vous avez pu constater à votre retour à la maison?
Oui, en effet, ça fait une semaine exactement qu'on est à Brovary, de retour dans notre appartement. En fait, l'armée russe n'a pas approché Brovary, donc elle était arrêtée à 10 km de notre ville. Par contre, les villages à 10 km de l'appartement où je me trouve en vous parlant ont été dévastés par l'armée russe. Il y avait énormément de crimes commis, y compris des viols, malheureusement. On voit dans les images et dans les reportages, dans les témoignages qui commencent à apparaître dans la presse ukrainienne, énormément d'horreurs que nous, on était épargnés. En fait, à Brovary, je peux constater que, heureusement pour nous, tout va bien. Tout est comme presque comme avant la guerre, en fait, avec bien sûr un peu plus de checkpoint, un peu plus de sécurité, avec la période de couvre-feu la nuit. Donc, ça commence à 9h, ça va commencer à 10h bientôt. Jusqu'à 6h du matin, on n'a pas le droit de sortir dans la rue. Mais à part cela, tout marche comme avant la guerre, donc les commerces, les cafés, les magasins. Bien sûr, les écoles sont fermées et seront fermées pendant toute la guerre, malheureusement, pour nos enfants. Donc, après 2 ans de Covid, aujourd'hui, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école tout simplement parce que la Russie nous fait la guerre. Donc, les grands-enfants, et bien sûr, ils peuvent communiquer par Zoom, par cet enseignement à distance, mais pour le petit, bien sûr, tout cela est interdit. Mais à part cela, en fait, en roulant à Kiev, ce que je fais déjà à plusieurs reprises, donc on voit aussi que les gens commencent à revenir, même si jusqu'à maintenant, il y a moins de monde que d'habitude. Bien sûr, il y a ceux qui préfèrent rester encore un peu à l'écart de Kiev, la capitale. Il y a un peu moins du monde, il y a un peu moins de bouchons, mais même les bouchons, ça commence comme c'était toujours le cas, la capitale Kiev, c'est une grande ville de presque 4 millions d'habitants d'habitude. Aujourd'hui, la mairie nous a dit qu'à Kiev, il y a à peu près 2 millions, peut-être un peu plus, mais les retours sont très nombreux. Les gardes frontières nous ont informé qu'aujourd'hui, il y a plus de retours, en fait, à la frontière avec la Pologne que des départs, en fait.
Mais c'est fascinant, Tetiana, parce que même si la Russie dit qu'ils vont concentrer leur offensive dans l'Est, ils continuent d'avoir des frappes un peu partout au pays, qu'on pense à ces 5 gares ferroviaires dans le centre et l'Ouest qui ont été bombardées ce matin. Est-ce que vous vous sentez donc assez en sécurité pour revenir là où il pourrait encore y avoir des frappes?
Oui, bien sûr, et des frappes, il y en a tous les jours. Les alertes aériennes, il y en a tous les jours. Nous avons tous dans nos smartphones un programme spécial qui nous informe sur les alertes aériennes, c'est-à-dire on vit avec. Par exemple, aujourd'hui, il y en avait 2 ou 3. Vraiment, cette grande alerte le matin où justement 5 gares ont été touchées. Mais tous les jours, c'est comme ça. Une journée avant notre arrivée à Brovary, il y avait une frappe de 2 missiles à 2 km de notre immeuble, en fait. Donc parfois, ça cible des objectifs militaires, mais parfois ça tombe un peu au hasard. Et je ne me reviens pas de cette actualité de samedi. Donc, justement, la veille de Pâques orthodoxe, en fait, il y avait une famille touchée dans la ville d'Odessa, une ville portuaire. Il y avait des frappes sur Odessa. Un immeuble résidentiel a été touché. Et donc, en moins d'une seconde, un bébé de 3 mois, sa maman, jeune fille, et sa mère, grand-mère de ce bébé, ont été mortes.
Et leur père est parti
justement au magasin. En étant de retour avec le gâteau de Pâques, il a retrouvé que ce monde n'existait plus.
Mm-hmm. Ce sont des nouvelles tout à fait tragiques. Merci beaucoup pour votre témoignage ce soir, Tetiana, et prenez soin de vous.
Merci, bonne soirée.
On sait que le virus de la COVID-19 est moins dangereux pour les enfants que pour les aînés. Mais encore, il reste encore bien des zones d'ombre en ce qui concerne les effets du virus sur les plus petits, notamment sur ceux qui souffrent aussi d'autres maladies. Le fédéral investit 6 700 000 $ dans un projet de recherche afin de répondre à certaines de ces questions. Étienne Fortin-Gauthier a plus de détails.
Valérie Roy, vous avez un enfant, Cory, qui a une maladie infantile. Et là, il a eu la COVID dans les dernières semaines. Oui, ça a été un cauchemar un peu pour vous?
Oui, parce que la maladie de notre garçon, c'est un syndrome inflammatoire. Qu'il n'y a pas encore de nom, justement. C'est un syndrome. Et le COVID est inflammatoire. Fait que tu jumes les deux, ça va pas ensemble. Fait que qu'est-ce qui peut arriver à Cory? C'était beaucoup de médication et de... Mais heureusement, il va bien. Puis on ne sait pas s'il peut rattraper le COVID, mais on prend ça un jour à la fois.
Tu veux que je renvoie par courriel?
C'est pour des enfants comme Cory que le gouvernement fédéral annonce la création d'une nouvelle plateforme. Elle se nomme Popcorn et va faciliter la recherche sur la COVID chez les enfants et le partage de données.
comme l'adage dit, si seul, on peut aller plus vite. Ensemble, on peut aller bien plus loin. Et c'est exactement l'objectif du projet collaboratif pan-canadien dirigé par Dr. Caroline Quash.
Si nous avions pu évaluer rapidement l'impact de la COVID-19 sur la santé des enfants, est-ce que les décideurs auraient fait un choix différent? Difficile à dire, mais à tout le moins, donnons-nous les moyens de mieux outiller ces décideurs.
Mais à quoi ça va servir donc pour la suite des choses? Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Là?
Bien, ça va nous permettre de comprendre quand on a décidé, par exemple, de fermer les écoles, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur nos enfants? Quand on parle de COVID longue en pédiatrie, est-ce que ça existe? La beauté de la plateforme Popcorn, c'est qu'on est capable d'avoir à travers le Canada les mêmes définitions, une base de données unique. Donc, c'est vraiment cette mise en commun de réseaux qui existaient déjà, mais avec vraiment une infrastructure là, commune et harmonisée.
Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a participé aujourd'hui à l'annonce à l'hôpital Sainte-Justine. Le ministre a admis que pendant la pandémie, son gouvernement a misé sur le principe de prudence et que ça venait avec une part d'inconnu.
On agissait dans un environnement où on ne connaissait pas à plus long terme les effets à la fois physiologiques et médicaux de la COVID-19 et les effets plus larges. La bonne nouvelle, c'est que ce qu'on annonce ce matin, c'est entre autres là-dessus. C'est non seulement sur les effets physiologiques, mais sur les effets mentaux, éducationnels, cognitifs, éventuellement reliés à la performance scolaire, les effets sur la santé mentale à plus long terme. Donc tout ça s'est capté dans un environnement très large, un partenariat assez exceptionnel.
Encore une fois, on a beaucoup d'anecdotes, mais d'avoir des données sur des grands nombres d'enfants pour pouvoir dire à Mme Roy, entre autres, que même si Cory a un syndrome auto-inflammatoire et que s'il attrape la COVID, il n'est peut-être pas à si haut risque que ça, mais on n'est pas capable d'avoir ces informations-là facilement. Donc, cette plateforme-là va pouvoir aussi permettre de répondre à cette question-là.
Les programmes enrichis en art, en sport ou en sciences se sont multipliés dans les écoles publiques du Québec. Certains y voient une alternative accessible à l'école privée, d'autres les jugent élitistes et injustes. Alors, il y a un centre de services scolaires de Drummondville qui a décidé de changer ses façons de faire. Désormais, tous les élèves du secondaire auront accès à ces programmes particuliers sans égard à leurs notes. On en discute avec la journaliste Maude Goyer, spécialiste des enjeux de parentalité, entre autres. Bonsoir, Maude.
Bonsoir.
Alors, c'est vraiment intéressant, ce débat-là. Il y avait un rapport il y a quelques années du Conseil...
2016,
c'est ça, qui disait que le système scolaire québécois est l'un des plus inégalitaires au Canada.
Oui, au Canada. En fait, c'est qu'on a un système à trois vitesses. Hein. On a l'école secondaire régulière. Là, ça, c'est 60 % des jeunes qui fréquentent ce système-là. Après ça, on a l'école secondaire régulière aussi, publique, mais avec des programmes particuliers. Là, on vise en tout, ça va être 80 %. Puis ça, c'est à la hausse de plus en plus de parents inscrivent leurs enfants là. Et il y a l'école privée. Donc, c'est 400 écoles en tout au Québec. Mais ça crée des inégalités parce que dans les écoles secondaires publiques, se trouvent les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller au privé. Et c'est démontré aussi que c'est des gens qui sont issus plus de familles défavorisées. Alors, il y a une professeure qui me disait, Noémie, que l'école régulière, sans programme particulier, s'est rendue le secteur plus faible.
Le secteur plus faible. Oui. Donc, on ne peut plus se contenter d'aller à l'école ordinaire parce que c'est là que sont concentrés les élèves les moins performants. Oui. C'est un peu ça, c'est l'inégalité dont on parle.
Oui, c'est ça. Puis là, ça creuse l'inégalité, en fait. Puis la preuve de ça, c'est que 60 % des élèves du Québec donc, vont à l'école régulière, mais il y a seulement 15 % qui vont se rendre aux études supérieures, alors qu'à l'école privée, c'est 60 %. Puis dans les programmes enrichis, c'est 50 %.
Ah ouais. Donc les programmes enrichis et les programmes à l'école privée, ils ont à peu près le même taux de passage aux études supérieures. Donc là, ce centre de services scolaires de Drummondville, le centre de services scolaires Deschênes, qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Bien, eux autres, en fait, ils veulent que tous les programmes spécialisés qu'ils ont, c'est-à-dire hockey, informatique, et il y en a un troisième qui m'échappe, ils veulent en fait le rendre à les arts. Ils veulent le rendre accessible à tout le monde. Donc peu importe les notes, l'option va être accessible. Donc si l'élève a envie de l'essayer, de participer, il va pouvoir le faire. Il y a de plus en plus d'écoles qui emboîtent ce pas-là. Parce que, dans le fond, ces programmes-là sont populaires. Pourquoi? Parce que les parents sont pas satisfaits de l'offre qu'il y a dans leur quartier. Puis ça fait aussi par exemple, à Montréal ou dans les grandes villes du Québec, les gens sont excentrés, donc les élèves ne vont pas nécessairement à l'école publique secondaire de leur quartier. Ah. Donc, ils vont se déplacer beaucoup.
Alors, aller chercher un programme particulier qui est dans un autre quartier.
Exactement.
Mais là, est-ce que tous les élèves ont vraiment les aptitudes pour aller dans des profils particuliers? Est-ce qu'on n'est pas en train de niveler par le bas avec ce genre d'initiative?
Bien, en même temps, ça va permettre à tout le monde d'avoir l'égalité des chances, parce que c'est ça qu'on veut, en fait. On veut un système où tout le monde aura une opportunité de poursuivre ses rêves et ce qu'ils ont envie de faire. Donc, la problématique en ce moment, c'est qu'il y a vraiment des iniquités. Et en fait, c'est ça. Il y a vraiment un fossé qui se creuse de plus en plus. Ce qu'on veut, c'est de la mixité. On appelle ça la mixité. Donc, le fait d'avoir des élèves qui sont forts vont tirer les autres vers le haut. Ça, c'est des études le démontrent.
Vont tirer les élèves vers le haut. Mais ceux qui sont forts et qui auraient peut-être besoin de ces programmes enrichis, est-ce que... Puis bon, c'est pas la cause la plus populaire de tous les temps, là, se soucier des élèves qui ont de la facilité, mais quand même, on parle toujours d'eux comme étant là pour tirer les autres vers le haut, mais ils ont des besoins propre aussi.
Oui, c'est ça. Là, les élèves doués, c'est à peu près 20 000 jeunes au Québec, selon l'Association du haut potentiel du Québec. Donc, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas non plus rien d'adapté pour eux, que ce soit des programmes pédagogiques pour eux, du mentorat, parce qu'il y a de la mésadaptation scolaire aussi pour eux.
Et donc, il y a du décrochage aussi chez les élèves doués.
Exactement. Donc, eux ne trouvent rien. Puis moi, je pense qu'une des priorités aussi, c'est qu'en temps de pandémie, évidemment, on devrait peut-être parler d'abord faire le rattrapage pour les élèves qui ont eu des problèmes et des manques par rapport à toutes les absences qu'il y a eu à cause de la pandémie.
Ah oui, puis ça, c'est pas vraiment un chantier qui est en cours. Merci beaucoup, Maude, pour ces réflexions. À bientôt.
Je reconnais que l'éradication du racisme et de la discrimination systémique constitue un défi institutionnel majeur.
La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a dévoilé ce matin un nouveau rapport accablant pour les Forces armées canadiennes. Cette fois, l'organisation est écorchée pour son manque d'empressement à lutter contre le racisme et la discrimination dans les rangs militaires. Je joins à Ottawa notre collaboratrice Mélanie Marquis. Elle est correspondante parlementaire pour la presse. Bonsoir, Mélanie.
Bonsoir, Noémie.
Donc, c'est un groupe consultatif formé de membres retraités des Forces qui signent ce rapport. Qu'est-ce qu'on peut y lire?
Exact. Et ce qu'on lit, en fait, essentiellement, un des premiers éléments qu'on reproche aux Forces armées, c'est leur inaction. Donc, ce qu'on écrit carrément dans ce rapport-là, c'est ça fait 20 ans que vous savez, ça fait 20 ans que vous êtes au courant et vous n'avez rien fait. Je te lis un petit extrait. C'est écrit « Le ministère et les Forces armées n'ont pas besoin d'attendre qu'une équipe externe comme ce groupe lui dise quoi faire et n'ont pas besoin de nouvelles recommandations pour lutter contre le racisme et la discrimination. » Alors, ça mérite d'être clair dans ce rapport-là qui est quand même, je te dirais, Noémie, assez verbeux, très peu concret. On revient sur des recommandations qui ont été formulées. On fait l'inventaire aussi des problèmes de recrutement, de minorités racialisées, d'Autochtones. Et on revient également sur le fléau de l'inconduite sexuelle. Puis, un des rares exemples concrets qu'on donne là-dedans, on parle d'une tendance troublante, c'est que l'armée, en fait, dirait à des femmes de militaires qui sont atteintes d'un choc, d'un syndrome de choc post-traumatique et qui se font maltraiter par ces soldats-là. Elles se font demander, bien, écoutez, démontrer un peu de compassion parce que ce sont des blessures que ces militaires-là ont subies alors qu'ils servaient leur pays. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui est troublant selon les auteurs.
Bien oui, tout à fait. Puis il y a toute une section aussi sur l'infiltration de suprémacistes blancs ou de sympathisants de l'extrême droite au sein des Forces canadiennes.
Oui, puis là encore, on n'a pas un portrait très clair de la situation. Donc, on ne quantifie pas le nombre, par exemple, de ces gens qui pourraient avoir infiltré les rangs des Forces armées. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on observe une croissance, mais en même temps, on constate que l'armée manque d'agilité pour les trouver, ces personnes-là, parce que, notamment, on va utiliser du cryptage dans les échanges sur le dark web et que l'armée n'est pas non plus en mesure d'identifier des logos, des écussons qui permettent de reconnaître l'adhésion de ces gens-là à des groupes d'extrême droite ou de suprémacistes blancs. Donc, là aussi, il y a du chemin à faire, mais là aussi, ça manque de clarté dans les actions à prendre.
Bon, ça fait un autre chantier pour la ministre de la Défense, Anita Anand. On sait qu'elle attend aussi un autre rapport, celui de l'ancienne juge Louise Arbour sur l'inconduite sexuelle. Mais changeons de sujet brièvement, Mélanie. On se souvient que le gouvernement Trudeau avait été fort critiqué quand il avait fait appel à la loi sur les mesures d'urgence pour déloger les manifestants, les camionneurs opposés aux mesures sanitaires. Et là, il y a une enquête indépendante qui est déclenchée par le gouvernement pour faire la lumière sur l'utilisation de cette loi.
Oui, exact. Et ça, c'est un mécanisme qui est prévu à même la loi, donc à laquelle on a eu recours. Et on a nommé aujourd'hui un juge, donc le juge Paul Rouleau, qui va, lui, être chargé d'étudier les circonstances qui ont mené à l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, le sociofinancement, les organisateurs. Et il doit remettre son rapport au plus tard, fin février, donc le 20 février 2023, aux deux chambres du Parlement.
Bon, ben, ça nous fera un autre rapport à examiner ensemble. Merci beaucoup, Mélanie.
Avec plaisir, Noémie. À bientôt.
Emmanuel Macron réélu pour un deuxième mandat en France. Dans un instant, on revient sur les résultats de l'élection présidentielle avec le journaliste Pierre Tremblay, en direct de Paris. Les Français se sont réveillés ce matin dans un pays divisé. Au second tour de l'élection présidentielle hier, Emmanuel Macron a été réélu avec un score convaincant de 58,5 % des voix, mais Marine Le Pen a quand même récolté 41,5 % des votes, du jamais vu pour un parti d'extrême droite. On en discute avec le journaliste Pierre Tremblay, que je joins à Paris. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Noémie.
Alors, Emmanuel Macron, bon... C'est un score quand même, c'était peut-être moins serré que ce que certains sondages laissaient présager, mais ce n'est pas non plus de quoi célébrer de façon triomphale pour Macron aujourd'hui.
Oui, ça semble une victoire assez nette, mais c'est vrai que quand on y regarde de plus près, c'est un petit peu plus compliqué. D'abord, il y a eu une abstention assez forte. Il y a 28 % des Français qui ne sont pas allés voter. On n'avait jamais vu un taux aussi fort en France depuis 1969. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron simplement pour faire barrage à l'extrême droite, donc ils ne sont pas nécessairement d'accord avec son projet politique. Et l'extrême droite, eh bien, elle a progressé aussi depuis 2017. Marine Le Pen, elle a fait 8 points de plus qu'au deuxième tour il y a 5 ans. Donc, quand on voit les célèbres hier devant la Tour Eiffel, sur le Champ de Mars, des partisans d'Emmanuel Macron. Il y avait un DJ, il y avait de la musique, on a vu des ministres danser. Il y avait quand même un petit peu un décalage avec ces zones d'ombre de la situation. Et d'ailleurs, on a vu déjà hier soir quelques manifestations pour protester contre ce résultat.
Marine Le Pen, de son côté, elle a amélioré son sort, mais reste que c'est une troisième défaite de suite. Ça ne l'a pas empêché de déclarer que ce résultat représente en lui-même une éclatante victoire. Donc, Marine Le Pen, elle est là pour rester.
Peut-être, mais elle a quand même dit ces dernières semaines que ça pourrait être sa dernière présidentielle. Il y a le polémiste d'extrême-droite, Éric Zemmour, qui va peut-être récupérer son électorat. Mais c'est vrai que Marine Le Pen, on l'a souvent cru défaite, finie, mais finalement, elle revient. Et puis, effectivement, elle a amélioré son score, donc elle peut très bien se dire que la prochaine fois sera la bonne.
Et comme les autres adversaires d'Emmanuel Macron, enfin, tout ce beau monde se prépare pour la prochaine étape, les élections législatives de juin, où là, les députés seront élus, contrairement au système canadien et québécois. On n'élit pas, tout le monde en même temps, là. Donc, prochaine étape, juin.
Exactement. Donc, les Français repartent encore en période électorale et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en gauche vont essayer de faire de cette période un troisième tour de l'élection présidentielle. Donc, l'enjeu, c'est de priver Emmanuel Macron d'une majorité à l'Assemblée nationale. Mais il y a peu de chances que ça se produise parce que c'est un problème qui est souvent décrié en France. Les législatives arrivent juste après la présidentielle. Donc, souvent, ça ne fait que confirmer les mêmes résultats et le président se retrouve avec une majorité automatiquement. Mais bon, peut-être que les Français vont faire différemment cette fois-ci. En tout cas, ça va être à suivre parce que ça va être déterminant pour la suite du quinquennat.
Donc, ce quinquennat, donc ce nouveau mandat de 5 ans pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il promet? Il a essayé de s'attaquer à toutes sortes de réformes. Il a plus ou moins réussi pendant son premier mandat. Il va se réessayer pendant son deuxième?
Oui, exactement. Ça pourrait être assez mouvementé. Il veut faire encore des réformes importantes, notamment une réforme assez explosive sur les retraites. Il veut allonger le départ de l'âge... L'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et donc ça, ça ne fait pas plaisir à plusieurs, notamment les syndicats, plusieurs professions. Et donc, il pourrait avoir des grèves, il pourrait avoir des manifestations. Et donc, tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, ça va être d'être assez conciliant et d'avancer lentement pour rassembler quand même les Français dans cette période où on semble assez divisé.
Et aller essayer d'aller chercher autant les gens de la droite que de la gauche qui ont voté pour lui par dépit. C'est un peu ça son défi.
Exactement. Il y a beaucoup de gens de gauche qui ont dû voter pour lui pour faire barrage à l'extrême droite, notamment des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, il va devoir un peu, il va devoir leur parler à eux aussi. D'ailleurs, il a dit qu'il voulait nommer un premier ministre en charge de l'écologie, par exemple. Donc voilà, c'est une des choses qu'il va peut-être faire prochainement.
C'est à suivre. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous.
À bientôt.
Et les ressortissants français établis au Québec se sont prévalus de leur droit de vote en grand nombre en fin de semaine. On va aller rejoindre Sabrina Rivet sur le plateau Mont-Royal à Montréal, quartier général non officiel de la diaspora française. Bonsoir, Sabrina.
Bonsoir, Noémie.
Les Français que tu as rencontrés sont satisfaits de l'élection d'Emmanuel Macron?
Je te dirais mi-figue, mi-raisin, Noémie. C'est vraiment ce qui pourrait résumer la pensée des gens avec qui j'ai eu la chance de parler cet après-midi sur l'avenue du Mont-Royal, parce que tu le disais, le plateau Mont-Royal, c'est un peu le quartier non officiel, effectivement, des ressortissants français ici. J'en ai rencontré plusieurs, d'ailleurs, dans une épicerie qui ne vend que des produits français. Donc, bref, ce qu'on m'a dit, c'est que pour certains, on a vraiment voté contre un candidat plutôt que pour un candidat. Alors, c'est ce qui pourrait un peu expliquer, donc, ici, comment on se sentait au niveau des Français. Beaucoup m'ont dit que ça ne représentait quand même pas un peu ce qu'ils souhaitaient, tout ce qui était dit pendant la campagne électorale. Bien entendu, pour ce qui est du deuxième tour, on a vu un taux de participation un petit peu plus élevé ici pour la circonscription de Montréal, qui regroupe, en fait, là, tous les Français du Québec. Alors, le taux de participation était de 37,88 %. D'ailleurs, on peut le voir dans un tableau et vous voyez qu'il y avait un petit peu plus de 67 000 personnes qui étaient inscrites sur cette liste, donc les gens qui ont pu aller voter ce week-end pour ce qui est de ce deuxième tour-là. Et là, tout de suite, bien, je vous laisse entendre des Français que j'ai rencontrés un petit peu plus tôt aujourd'hui.
C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver face à Marine Le Pen. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais moi, en tout cas, je ne rentrais pas dans ses convictions, etc. Mais je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait été élu, il y aurait eu un gros changement et beaucoup très négatif, en fait.
Je pense que les jeunes, ils ont eu un peu espoir en Mélenchon cette année. Et au final, ils se sont mobilisés et il n'est même pas passé au second tour. Donc, en fait, ça ne donne même pas envie peut-être de continuer. Peut-être...
Alors qu'il n'était pas loin. Ouais. Il n'était pas loin de passer. Du coup, on a beaucoup perdu espoir parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Il est passé pas loin. Et du coup, là, on est vraiment on baisse les bras un peu.
Je pense pas que ça nous fasse reculer, c'est juste qu'il faudrait que ça nous fasse avancer. c'est plus seul. Là, il a encore 5 ans pour faire des choses et puis avancer, et puis surtout avoir un peu plus d'écologie dans son programme, ce serait bien.
Et là, Noémie, ben, ce n'est pas terminé, hein, parce qu'il y aura le vote pour les législatives. Et là, vous allez voir quand même dans la circonscription de Montréal. Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon, hein, qui était grand premier dans les votes ici. Alors, bien hâte de voir comment ça va se dessiner au Québec, pour qui on va voter, parce qu'on va devoir choisir 577 députés pour ce qui est là-bas du Parlement en France.
Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
C'est officiel, le milliardaire Elon Musk vient de conclure une entente pour faire l'acquisition du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars américains. La société en a fait l'annonce cet après-midi. La semaine dernière, le grand patron de Tesla avait annoncé avoir obtenu un financement de 46,5 milliards pour acheter la plateforme. Il avait aussi affirmé que la liberté d'expression sur Twitter serait préservée sous sa gouverne. La mère des deux garçons assassinés à Wendake en octobre 2020 réclame 2 millions de dollars au gouvernement du Québec. Émilie Arsenault estime que le système a fermé les yeux malgré les 3 signalements effectués auprès de la DPJ avant le drame. Mon collègue Phil Couture a rencontré la mère d'Olivier et Alex.
Donc, pour Émilie Arsenault, la mère d'Alex et Olivier, il s'agit d'un autre pas en avant dans cette affaire. Selon ce qui est rapporté dans la mise en demeure produite par l'avocate de Mme Arsenault, Maître Valérie Assouline, 3 signalements ont été faits à la DPJ en 2018, 2019 et 2020 pour diverses raisons, toutes concernant la partie paternelle. Ces 3 signalements ont été rejetés par la DPJ après des délais parfois montant jusqu'à plus de 60 jours, dans le cas notamment du deuxième signalement, ce qui constitue pour Maître Assouline une preuve que le CIUS de la Capitale-Nationale ainsi que le ministère de la Santé et des les services sociaux ont agi avec négligence grossière, avec imprudence et avec insouciance, causant un préjudice irréparable à Olivier et Alex ainsi qu'à sa cliente, ce qui constitue, sans l'ombre d'un doute, toujours selon elle, une faute lourde portant ainsi atteinte aux droits et à la sécurité, à l'intégrité et à la dignité.
Il y aura une responsabilité du système, du ministère aussi, qui était bien au courant, qui avait des délais d'attente qui étaient complètement déraisonnables. Il était au courant depuis la mort de la petite fillette de Granby en 2019. Et encore aujourd'hui, il y a des délais qui sont déraisonnables. Ça ne change pas. Alors, je pense que là, il va falloir agir. Et s'il faut que le ministère ait à payer pour ça, pour que ça change, bien, c'est ça qu'il faut, bien, c'est ça qu'il y aura.
Émilie Arsenault considère que son histoire doit faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus. Elle entend mener ce combat au nom de ses deux fils. Elle considère également que la DPJ et le ministre Lionel Carman doivent réaliser que la manière dont la DPJ fonctionne actuellement n'est pas en accord avec la réalité des parents qui se retrouvent dans une situation difficile.
Bien, ça représente beaucoup, là. C'est pour pas qu'on oublie mes enfants, que ça change, qu'il y ait un impact aussi, là, que la DPJ et que le ministre acceptent de voir que la réalité, en fait, là, que ça fonctionne pas du tout, puis que c'est pas à jour avec la vie d'aujourd'hui. Là. Je blâme pas les intervenants, là, c'est pas de leur faute à eux, là, c'est vraiment la mentalité de la DPJ qui doit changer, les lois qui doivent être refaites, ça doit vraiment être refait de A à Z.
D'ailleurs, le procès de Michael Chicoine, qui est accusé d'avoir tué ses deux enfants à Wendake en octobre 2020, commencera le 12 septembre prochain. Cette date fut d'ailleurs décidée en l'absence de l'accusé qui était paru en colère au palais de justice lors de la fixation de la date de son procès. Il avait alors tenu des propos déplorables à l'endroit de Mme Arsenault et de son père. Le juge Raymond Pronovo avait alors indiqué que la séance allait se tenir sans l'accusé afin qu'il puisse se calmer.
Dans le cadre de sa réforme de la protection de la jeunesse adoptée ce mois-ci à l'Assemblée nationale, Québec s'est engagé à mieux soutenir les jeunes de la DPJ dans leur transition à l'âge adulte. Et selon un collectif de jeunes qui sont passés par là, c'est une avancée importante qui devra toutefois être suivie d'un plan concret. Émilie Clavel s'est entretenue avec certains d'entre eux. Bonsoir, Émilie.
Allô.
Mais donc, c'était une recommandation de la commission Laurent que les jeunes ne soient plus laissés à eux-mêmes le jour de leurs 18 ans.
Oui, absolument. Il y avait plusieurs recommandations dans le rapport de Régine Laurent à cet effet-là. Et pourtant, quand la première mouture du projet de loi 15, la réforme des services de protection de la jeunesse, a été déposée par Lionel Carman, ça n'apparaissait nulle part ou pratiquement pas. Là, il y a eu des pressions, notamment de la part du collectif des ex-placés de la DPJ, mais aussi de l'opposition officielle. Et là, finalement, la loi qui a été adoptée il y a à peu près 10 jours, force les directeurs de protection de la jeunesse à au moins créer un plan de transition avec les jeunes, chaque jeune, dans les 2 années qui précèdent leur 18e anniversaire. Et on va aussi les accompagner. Ils vont bénéficier de l'accompagnement de l'État jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, le collectif des ex-placés reçoit très, très bien ces amendements-là, mais met Québec en garde parce que on dit qu'il faut faire attention au travail en silo. Les besoins sont énormes et il va falloir qu'il y ait un plan concret pour que tout ça s'arrime.
Et concrètement, de quoi ils ont besoin, ces jeunes-là?
Bien, ça, on peut parler de plusieurs choses, Noémie. Là, on parle de soutien psychosocial, psychologique, évidemment, mais aussi de l'aide pour se loger, trouver un logement, payer le dit logement, des bourses d'études pour les encourager à retourner à l'école parce que, historiquement, les enfants de la DPJ accusent un retard 1 à 2 années dans leur parcours scolaire. On parle d'aide juridique parce qu'ils sont plus prompts à avoir des problèmes avec la police. Ils sont aussi victimes de profilage social, souvent. La commission Laurent recommandait un revenu garanti, par exemple. Moi, j'ai parlé à un ex-enfant du système, comme il se décrit lui-même, qui s'est fait promener à l'intérieur du système de l'âge de 7 ans à 18 ans sans jamais retourner chez lui. Aujourd'hui, il est âgé de 23 ans, puis il m'a confié, Noémie, que sa vie n'était pas facile, même encore aujourd'hui, depuis son 18e anniversaire. Donc, je vous laisse écouter un extrait du reportage.
À 18 ans, on fait juste te dire, bon, ben, regarde, tu vois, là, on peut plus te garder. Voici les sacs de poubelle, voici la sortie. Puis, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de ressources là, qui nous donnent. J'ai perdu mon éducatrice de réinsertion, ma travailleuse sociale, le jour de mes 18 ans. C'est comme ça que la montagne russe a commencé.
Vous retrouverez le reportage complet de ma collègue Émilie Clavel sur notre site web au nouveau.info. On le sait, les délais d'attente dans plusieurs urgences de la province peuvent atteindre plusieurs heures. Mais imaginez si vous deviez en plus attendre pour entrer dans l'urgence. C'est ce que vivent des patients de l'hôpital de Trois-Rivières qui, une fois arrivés en ambulance, attendent des heures dans le véhicule avant d'être pris en charge par le personnel hospitalier. Une situation que dénoncent les paramédics de la région. Les explications d'Olivier Caron.
C'est la situation de vendredi dernier qui a une fois de plus dérangé les paramédics de Trois-Rivières. Au moment le plus occupé de la journée, il y avait 8 ambulances qui faisaient la file ici à l'urgence en attendant que les infirmières puissent trier les patients. Ça a laissé donc à ce moment-là le territoire à découvert.
Si on peut parler directement de vendredi, on a une ambulance qui a attendu 3h30 avant d'être triée. Donc, au terme de la fréquence, ça arrive quelques fois, je vous dirais, par semaine. Mais là, d'avoir des délais aussi élevés, là, ça devenait vraiment critique. Bien sûr, le risque de détérioration clinique du patient, donc, qui est sur la civière qui attend, mais également, c'est que ces ambulances-là qui ont les patients sur civière ne peuvent pas aller répondre aux appels urgents sur le terrain, donc sur le territoire que la CAM dessert.
Pour pallier le manque de couverture de vendredi dernier, bien, ce sont des paramédics de Louisville qui ont été appelés en renfort pour répondre aux appels en attente à Trois-Rivières.
On peut prendre un exemple Batiscan, qui est également un de nos secteurs, qui était également pris au centre hospitalier, qui a fait un appel, qui est descendu à l'hôpital du Char. Bien, pendant ce temps-là, le secteur est découvert, donc on peut extrapoler ça également aux autres secteurs limitrophes quand ils viennent nous prêter main forte.
Les paramédics ne blâment pas les infirmières pour les longs délais d'attente à l'urgence parce qu'ils savent bien que le personnel hospitalier fait ce qu'il peut pour trier à temps les patients. Par contre, on souhaite que les solutions proposées soient entendues et mises sur pied.
L'objectif là-dedans, c'est juste d'éviter justement de mettre la population en danger par des événements comme ceux-là. On pointe personne du doigt, là. Souvent, des fois, ça peut être systémique, des questions d'organisation du travail, des fois, qu'il faut revoir. Mais c'est le signe et symptôme qui ressort de ça, c'est que j'ai des ambulances qui attendent des heures avant d'être triées et qui ne peuvent pas répondre aux besoins de la population. C'est surtout ça là, qu'il faut attaquer. Moi, je suis convaincu que les gens sont de bonne foi et ils veulent régler les problèmes, mais il faut les régler. C'est un petit peu ça l'appel qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent. On en a proposé également d'essayer de réorienter les patients qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller à l'urgence vers d'autres ressources médicales, que ce soit de la co-évaluation avec une infirmière. On parle aussi de surveillance de patients par des paramédics. Ça peut être aussi de supervision de patients qui ont eu des congés de l'hôpital puis qui sont juste en attente finalement d'un transport pour retourner dans leur résidence. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont été avancées.
Montréal pose un geste pour inciter Québec et Ottawa à ne plus investir dans de nouveaux projets d'exploitation de pétrole, de gaz et de charbon. La ville compte se joindre au traité de non-prolifération des combustibles fossiles pour démontrer son engagement dans la lutte au changement climatique. Les énergies fossiles génèrent 86 % des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement planétaire.
C'est sûr que quand je vois un projet qui vient d'un autre palier, qui vient un peu nous faire reculer, hein, c'est comme on avance de 3 pas, ah, on recule un de 2. Alors oui, c'est contre-productif, mais on va quand même, on va pas lâcher. Là. La Ville de Montréal va continuer à faire des efforts colossaux pour atteindre ses objectifs, mais il faut que ça se fasse à la grandeur du pays.
À Pékin, la recrudescence des cas de COVID-19 fait craindre le pire à la population. La capitale chinoise se prépare à un éventuel reconfinement après un nombre record d'infections lundi. Les habitants redoutent un scénario similaire à celui de Shanghai. Je vous rappelle que depuis le début avril, la quasi-totalité des 25 millions d'habitants de Shanghai sont complètement confinés. Et si réduire la taille de votre maison vous permettait d'être plus heureux? C'est le constat qu'a fait un couple de Montréal. On vous présente leur histoire après cette pause. Grande maison, une piscine, une cour, un garage, de la place pour les invités. Voilà l'idéal immobilier de plusieurs d'entre nous. Sauf que cette obésité résidentielle, en plus d'accélérer l'étalement urbain, peut coûter cher en temps comme en argent. Et il y a certains propriétaires qui ne sont plus prêts à payer ce prix. Emmanuel Lerounega raconte.
Dans notre société, on vit un phénomène d'obésité résidentielle. Il y a tout ce qui vient avec, la cour arrière, la piscine, etc.
Cet extrait vient d'un reportage que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les mini-maisons. Et ce concept d'obésité résidentielle a vraiment piqué ma curiosité. Et je me suis demandé s'il y en a qui décident de faire le chemin inverse. Et justement, j'ai rencontré un couple qui a décidé de vendre sa maison pour s'acheter un petit condo.
Et voilà, donc là, tu peux voir la façade de la maison. Donc, c'est vraiment les petits shoebox, les petites maisons d'après-garde. Donc, vraiment un étage, un sous-sol, petite cour arrière, petit terrain en avant.
Ça a été un coup de cœur, en fait, quand on l'a visité vraiment, là. On était super contents.
Puis là, 4 ans plus tard?
3 ans plus tard.
Le coup de cœur était parti, puis on l'a vendu.
Là, on l'aimait toujours, cette maison-là, mais on s'est rendu compte que nous, à la base, on était des gens qui aimaient profiter des fins de semaine. L'été, on aimait ça voyager.
Ça commençait à être lourd dans le sens où la fin de semaine, là, on avait envie de faire plein de choses. Sauf être nécessairement en train de tondre le gazon et en train d'entretenir la cour.
C'est la piscine, c'était le fun le premier été. Le deuxième été, je dois dire que j'ai passé plus de temps à la rendre propre qu'à passer du temps dedans. Faut t'investir de l'argent tout le temps aussi dans ta maison.
Parce que vous en avez qui reviennent de la banlieue en disant « Justement, j'ai acheté la grande maison, puis j'ai réalisé que j'en profitais pas tant que ça. »
Pas encore, mais on s'attend à ce phénomène-là dans les prochaines années. L'exode a été quand même assez marqué là, depuis le début de la COVID et on s'attend à ce qu'il y ait une certaine partie de ces acheteurs-là qui seront malheureusement insatisfaits, qui vont réaliser le travail que ça implique d'avoir un grand terrain, d'avoir une piscine, tout ça, et qui vont probablement revenir, qui vont regretter leur achat.
On a une chambre à coucher qui est ici, puis salon... espace un peu bureau ici. Une grande maison, ça vient avec plus de responsabilités, oui. Mais tu sais, cette maison-là, il faut que tu la meubles, il faut que tu consommes, hein, faut que tu en mettes du stock là-dedans. Puis on n'avait pas envie de ça. Tu sais, ce qu'on a réalisé, c'est que plus qu'on a de choses, plus qu'on a d'affaires, bien, plus on s'est étouffé.
Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu à contre-courant? Est-ce que vous avez des gens à qui vous avez dû expliquer? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bien trop petit, vous allez étouffer.
Ah, énormément.
Oui, oui.
Quand on a annoncé ça, on s'est fait dire, ben voyons, mais t'auras plus de cours, qu'est-ce que tu vas faire avec ton chien? Ben mon chien, je vais sortir, je vais aller le promener.
À un moment donné, on s'était dit, ah, ben tu sais, avoir une chambre d'amis, est-ce que vraiment ça vaut la peine de se dire, on va acheter un condo plus grand en se disant, ah, mais si quelqu'un vient dormir à la maison?
Mais c'est évident qu'il y a une tendance à la densification. À l'intérieur de la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, à peu près 80% des projets, c'est du condo. Et dans la publicité de tous les promoteurs, on vend cette idée des équipements à partager, des espaces à partager.
Oui, oui, c'est important pour nous aussi d'avoir ces espaces-là, ne serait-ce que pour, effectivement, quand on a des gens, on veut avoir plus d'espace, quelque chose de plus grand à l'extérieur.
Si je n'utilise pas pendant 5 mois, ben, c'est correct, il va rester là, quelqu'un d'autre va l'utiliser.
En fait, on sent beaucoup plus... libre.
Qu'est-ce qu'on a fait en fin de semaine? Ben, on est sorti de la ville, on est allé voir autre chose, puis on s'est pas préoccupé de notre logement. Tu fermes la porte et t'as l'esprit tranquille.
Faire du Québec une destination gastronomique de choix en Amérique du Nord, c'est l'objectif que s'est fixé aujourd'hui un collectif de chefs des 4 coins de la province qui souhaite être mieux outillé pour le futur. Ce regroupement d'une 30aine de restaurateurs s'engage à s'approvisionner chez les producteurs du terroir et à faciliter la communication entre leurs établissements. Le gouvernement du Québec leur a aussi offert une aide de près de 1 million de dollars.
Je pense que c'est un grand rêve qu'on réalise aujourd'hui. Je pense que depuis 30 ans, on a tous travaillé, chacun dans notre coin, à essayer de faire évoluer la gastronomie québécoise. Aujourd'hui, on se rassemble et on va pouvoir travailler tous ensemble vers le même but. Et en plus, on va être entendu, et on est déjà entendu par nos gouvernements qui reconnaissent enfin l'importance de la restauration de niche au Québec.
Bonsoir, Michel.
Ah, bonsoir, Noémie.
Il y aurait des retards dans le versement, des remboursements d'impôts parce qu'il y a des gens qui complètent leur déclaration
Bien avant la date limite.
C'est pas ton cas. T'as pas été la première à envoyer ta déclaration de revenus. Moi, j'ai été pas mal dans les premiers. Mais c'est pas de mon cas qu'on parle ce soir. En fait, c'est que normalement, ça prend à peu près 14 jours ouvrables, selon Revenu Québec, pour que le dossier soit traité. Bien là, on avoue que cette année, il y a... Les délais sont plus longs. Il y a des retards qui se sont ajoutés cette année, entre autres à cause du nouveau crédit d'impôt de 500 $ offert par le gouvernement, parce qu'il faut se rappeler qu'on pouvait déjà commencer à envoyer nos déclarations de revenus quand le gouvernement a annoncé dans le budget ce 500 $-là. Alors, ajustement, on dit que c'est temporaire, là, qu'on devrait revenir à la normale très bientôt du côté de Revenu Québec. Alors, si vous n'avez pas encore reçu votre retour, là...
Pas de panique. Bon, très bon à savoir. Et ce soir, au fil 22 heures, l'achat de Twitter par Elon Musk qui s'est concrétisé.
44 milliards de dollars, c'est fou, hein? Qu'est-ce qu'il va faire avec Twitter? Est-ce qu'il pourrait arriver avec des améliorations? Bien, on va avoir en entrevue ce soir l'expert en numérique, Jonathan Laverge, qui va venir nous parler de
ça. On va regarder ça. Merci, Michel. Bye bye, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. À demain, 17 heures.